Radio Okapi. Okapi. Okapi Service avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Quels sont les mécanismes à mettre en place pour stopper la persistance de l'épidémie de choléra en République démocratique du Congo? 6 provinces du pays sont touchées par cette maladie depuis le début de l'année. On en parle avec Dr Richard Kitenge, chef des sections des opérations au Centre des opérations d'urgence des santé publique et chef des opérations pour les choléra. Monsieur Dr Richard Kitenge, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Vous avez des questions et préoccupations par rapport au choléra? Appelez-nous au 099-706-9941. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Quelles sont les réformes majeures engagées pour rationaliser le système éducatif congolais? Quelles sont les réformes engagées pour améliorer la qualité de l'enseignement dans notre pays? Eh bien, on en parle dans la deuxième partie de ce programme avec Monsieur Mathieu Mukenge, secrétaire général intérimaire au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Polydor Bansunga, la mise en onde, Tati Mapoukou coordonne et réalise cette émission. Jody Daniel Kachama au micro. Bienvenue à tous et excellentes conditions d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous allons à présent parler du choléra. Vous savez, 6 provinces du pays font face à une épidémie de choléra qui persiste depuis plusieurs mois, depuis le début de l'année. Il s'agit du Haut-Katanga, du Tanganyika, de la Tchopo, du Congo central, du Nord et Sud-Kivu. Des cas de patients contaminés sont également enregistrés à Kinshasa. Alors selon les statistiques du ministère de la Santé, le pays a enregistré plus de 18 000 cas de choléra avec 350 décès depuis le début de cette année. Alors c'est quoi le choléra? Comment se manifeste le choléra? Comment briser cette persistance de cette épidémie dans notre pays? Quels sont les moyens de prévention? Eh bien, nous allons aborder toutes ces questions avec notre invité. Il s'agit du docteur Richard Kitenge, qui est le chef des opérations choléra, au centre des opérations des urgences de santé publique. Docteur Richard Kitenge, encore une fois, bonjour et ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Nous parlons du choléra. Vous confirmez que cette maladie persiste dans 6 provinces du pays depuis le début de l'année et on a déjà enregistré près de 350 décès.
Merci beaucoup. Merci pour ce temps que vous nous accordez pour nous adresser à la population. Le choléra fait partie de la liste des urgences santé publique que nous avons au pays. Et effectivement, le choléra est un mode réponse pour le pays. Et le ministre de la Santé a même déclaré depuis l'épidémie au niveau national. Donc, comme vous le disiez, le choléra, il persiste, s'il faut qu'on le dise, en ce sens. Mais nous avons deux sortes de provinces à l'heure actuelle. Nous avons des provinces qui sont endémiques au choléra et nous avons des provinces qui sont devenues épidémiques au choléra. Donc, ces provinces endémiques qui ont un tel seuil épidémique, et de ces souches avec le fleuve que nous avons parfois, et des provinces, d'autres provinces ont été touchées. Donc au-delà de cet aspect endémo-épidémique, la situation que le Congo connaît avec le déplacement des populations fait que la promiscuité et l'insalubrité, parfois les conditions précaires de vie là où nos confrères se déplacent, ont fait aussi générer des épidémies de choléra. Voilà pourquoi on vit maintenant. Vous avez parlé des
Quelles sont les provinces qui sont devenues vraiment comment vous dites, vous appelez cela endémique?
Oui, les provinces endémiques, comme vous avez dit, nous avons les Tanganyika qui loge le lac Tanganyika. C'est une province qui est endémique. Le Haut-Katanga fait partie aussi de provinces endémiques. Donc, alors au-delà de cela, vous avez le nord et le sud Kivu avec tout ce qu'on a actuellement comme
situation sécuritaire.
Situation sécuritaire, ça impacte directement sur les sanitaires et ça explose, ça fait exploser aussi les choléras.
Oui. Alors, c'est quoi les choléras?
Oui, en quelques mots, pour tous ceux qui veulent nous écouter, le choléra, c'est une maladie diarrhéique qui donne de diarrhée aqueuse. Je ne vais pas rentrer dans la définition théorique, puisqu'on aimerait que le commun du mortel nous écoute pour dire. Voilà. Et ici, on va interpréter le choléra en termes de signes que la population pourra identifier. Donc, vous avez des diarrhées et souvent, ce sont des diarrhées que nous pouvons...
Que vous avez appelé aqueuse, c'est quoi le...
Aqueuse, c'est de diarrhée à l'eau. À quoi c'est l'eau? Ce sont des diarrhées qui ne font dégager que de l'eau.
Oui.
Mais de par les signes spécifiques du choléra, on vous dit que cette eau-là a la forme d'eau de riz. Ça donne la couleur
de l'eau. La couleur de l'eau de riz.
Oui. Et les mamans savent, ceux qui nous écoutent.
Généralement, l'eau de riz a quelle couleur, hein, docteur?
Bon, c'est une eau un peu trouble, d'aspect un peu blanchâtre et tout ça. Voilà, c'est cette eau-là qu'on a bien de laver le riz.
Et qu'est-ce qui cause le choléra?
Il y a un vibrio que nous appelons vibrio choléra. C'est ça la bactérie qui est à l'origine. Et nous le trouvons dans les eaux douces. Ils sont là calmement assis. Et ils ne peuvent causer du choléra que lorsque ça quitte son environnement naturel vers l'humain. Et ça ne peut arriver à l'humain que par la bouche. C'est comme ça que...
Donc quand on boit l'eau des rivières, de la source, on est exposé.
Effectivement. Non, mais faut pas qu'on parle, qu'on interdise pas aux gens de ne pas boire l'eau de la source. Non, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Ça dit que ici, nous parlons de l'eau non traitée. Ça dit quand vous prenez de l'eau d'une source, je prends la rivière comme le lac Tanganyika que nous espérons avoir tout autour des Vibrio, et que vous allez prendre l'eau du lac Tanganyika, vous buvez
sans l'avoir traité, alors vous exposez à attraper le choléra.
Vous exposez à attraper le choléra. Mais ce n'est pas seulement l'eau qui peut être incriminée. Nous pouvons aussi, ou nous devons aussi, la condition dans la lutte, c'est l'hygiène des mains, parce que ça passe par la bouche. C'est, on dit une contamination fécaux-orale. Donc, il faut que tu ramasses et que tu mettes dans la bouche pour que le choléra arrive. Et vous savez, le contact que nous avons avec la bouche, c'est un contact un peu permanent. Parce que tout le temps, on va se trouver un petit biscuit en cours de route.
Sans avoir lavé les mains, tout ça, on mange.
Voilà. Sans avoir lavé les mains, vous allez prendre ces biscuits, vous mettez dans la bouche, sans le savoir. Vous
pouvez avaler ce microbe-là.
Effectivement.
Bien, on va accueillir les auditeurs qui sont intéressés, dont le sujet intéresse. Achille est à Lubumbashi, Tagamile à Bounia, Gaston à Kinshasa et Charles nous appelle des Lubumbashi. Alors soyez brefs dans vos interventions pour donner aussi le temps aux autres de poser leurs questions. Achille de Lubumbashi, bonjour et quelle est votre question par rapport au choléra?
Bonjour, je dis bonjour à l'invité, bonjour.
Bonjour.
Alors, je voudrais être bref, comme vous l'avez dit, je suis dans la province concernée, et je voudrais savoir, peut-être que ça peut arriver aussi dans ma famille ou bien parmi mes proches, je voudrais demander à l'invité, une fois que je me retrouve devant un cas dans, peut-être dans la famille, quel est le premier acte de secours que je peux faire, étant donné que je dois faire face à beaucoup de défis, par exemple la distance pour atteindre la structure médicale, ou encore manque d'ambulance, peut-être un mauvais état de la route, les embouteillages. Dans ces cas-là, quel est le premier acte de secours à faire, et surtout quand on sait que c'est une maladie contagieuse. La deuxième des choses, je voudrais savoir, parce que nous avions entendu parler des corona, la vulgarisation a été vraiment au top par rapport au choléra. Alors qu'on sait que le choléra tue aussi plus peut-être que le sida. Pourquoi cette maladie n'a pas été vraiment vulgarisée comme l'impox, comme les choléra, et comme les Covid et autres choses? Parce que si on avait sensibilisé, ça pourrait peut-être stopper ou atténuer un peu le quoi de la situation.
D'accord. Merci beaucoup. Merci Achille. Tagamile, vous êtes à Bounia. Bonjour et quelle est votre préoccupation? Tagamile de Bounia, bonjour. Il n'est plus là. Gaston de Kinshasa. On me fait signe que Tagamile est en ligne. Allô?
Oui, allô, je dis, vous me captez?
Oui, bonjour Tagamile. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au choléra?
Oui, merci beaucoup. Je vous appelle depuis l'université Shalom de Bounia. En fait, je commence à poser une question à l'invité. Ma question est de savoir si est-ce que cette maladie choléra est une... Quel est le pronostic de cette maladie? Mais aussi, quelle serait la prophylaxie? Parce que nous savons qu'il y a toujours deux prophylaxies. Il y a la prophylaxie sanitaire et ainsi que la prophylaxie médicale. Alors, sur le plan sanitaire, quelles sont la prophylaxie ou les prophylaxies que la population peut adopter? Et sur le plan médical, est-ce qu'il y a-t-il un vaccin, par exemple, contre le choléra et ou soit un médicament très approprié? Parce que nous voyons, les gens meurent de cette maladie en échelle et ça nous fait un peu du mal. Alors, celui qui pose une question a peut-être la moitié de la réponse. Moi, je pense que le mécanisme optimal serait de mettre en place une stratégie d'intensification d'hygiène, comme il a dit, l'hygiène publique à l'intérieur, tout comme au niveau de la frontière. Mais aussi, il ne faut pas oublier, il ne faut pas faire fi de l'aspect des sensibilisations. On doit sensibiliser toute la population sur cette maladie, que la population sache son origine, sa gravité, son diagnostic, ses symptômes, mais également sa prophylaxie. Ça pour autant oublier bien son pronostic.
Merci Tagamile. Merci beaucoup. D'accord. Gaston, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et quelle est votre question par rapport au choléra?
Bonjour. Si. Je pense qu'il faut bouillir de l'eau. Ceux qui sont dans les milieux ruraux, ils n'ont pas accès à l'eau de la régie des eaux. Il faut bouillir de l'eau, boire. Ceux qui sont même là où il y a l'eau de la régie des eaux, il faut bouillir aussi, conserver et boire. Parce que la cause, tout le monde n'est pas en mesure d'acheter de l'eau, qu'on purifie là, par exemple, vous achetez des produits qui peut vérifier l'eau comme on peut croire. Mais il faut surtout bouillir de l'eau, la régie des eaux ou de la source.
Merci beaucoup Gaston.
En bois.
D'accord. Merci pour ce conseil, Gaston. Charles de Lumbashi, bonjour. Et quelle est votre question? Charles, vous êtes... On vous écoute, Charles.
Oui. Oui. Monsieur Jody, j'ai besoin d'abord de demander à l'invité, à l'heure actuelle, le choléra est classé ou bien est considéré comme étant une pandémie ou bien une épidémie. Et s'il aura le temps, il puisse quand même nous expliquer en profondeur la différence qui existe entre ces deux concepts-là, parce que ça nous dépasse parfois. Ici à Lubumbashi, dès qu'il y a l'apparition du choléra, on a toujours l'habitude de citer toujours les mêmes quartiers. Alors, moi, cela aussi me dépasse. Est-ce que ces quartiers-là dont on cite habituellement sont condamnés à vivre toujours dans les choléras, ou bien ils ne font pas les investissements dans d'autres quartiers.
Charles,
ils ne s'arrêtent qu'à ces quartiers-là.
Charles, quels sont,
ils sont déjà connus.
Quels sont les quartiers les plus touchés de Lubumbashi, d'après vous, par le choléra?
Les quartiers les plus touchés, messieurs les journalistes, on a toujours l'habitude de commencer par les quartiers Congo, Taba Congo, Bongonga, pour ne citer que cela, sans oublier la commune de la Kenya. Alors cela, ça nous dépasse. À chaque annonce, on commence toujours que par ces quartiers-là. Mais est-ce que d'autres quartiers sont sains et saufs, ou bien qu'est-ce qui se passe réellement travail.
D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci Charles. Depuis le... Une autre question rapidement.
Oui, on nous a toujours dit de bouillir de l'eau. Mais monsieur Jody, après avoir bouilli de l'eau, nous constatons que l'eau arrive toujours à perdre son goût naturel. Alors, qu'est-ce que l'auteur peut nous dire quant à cette question-là de bouillir de l'eau?
D'accord.
Voilà, c'est tout ce que j'ai voulu savoir.
Merci, Charles de Lubumbashi. Docteur, vous avez des questions, docteur Richard Kitenge, le premier intervenant a dit Achille de Lubumbashi, quel est le secours à apporter en cas de, si dans la famille on se retrouve avec quelqu'un qui a le choléra, quels sont les gestes de secours à apporter rapidement? Et puis il dit c'est une maladie contagieuse. Bon, vous allez nous dire si c'est elle est contagieuse ou pas. Et pourquoi il y a une faible vulgarisation autour du choléra, docteur Richard Kitenge.
Merci, merci Achille. Ce sont des questions très très pertinentes. Achille parle. Il a posé une question sur le premier secours. C'est très intéressant et j'aimerais que même les gens qui n'ont pas posé prennent cela. Le choléra, c'est une maladie qui tue par perte de l'eau. C'est-à-dire que l'homme, tel que nous sommes constitués à peu près 60% de notre constitution est constitué de l'eau. Mais le choléra nous ravit ces 60%-là en un clin d'œil.
Déshydratation.
La déshydratation. Alors, je voulais rester dans les termes classiques.
D'accord.
Tout le monde nous écoute. Donc, le choléra tue par déshydratation. Et c'est une déshydratation qui peut être une déshydratation qui peut passer de...
De 60 à combien?
Non, la déshydratation peut passer de modéré à sévère, à un clin d'œil. Donc, en très peu de temps, le choléra
peut tuer. On perd une forte quantité d'eau et ça peut conduire à la mort.
On perd de l'eau qui conduit à la mort complètement. Donc, le premier réflexe que je demande à Gilles, c'est de faire boire la personne dès qu'il commence ses premiers signes-là. Donc, si vous avez la facilité d'être à côté d'une pharmacie, courez à la pharmacie, achetez ce que nous appelons le sérum de réhydratation orale. C'est un petit sachet que vous allez mettre dans un litre d'eau. Si vous voulez en faire, vous avez deux sachets, trois sachets. Donc, chaque sachet devrait être dilué dans un litre d'eau. Donc, en fonction du nombre de sachets que vous allez diluer, vous le mettez, vous respectez un litre par sachet.
Et ça, la personne peut boire cette eau.
Et vous donnez à la personne, à l'entretemps, vous courez avec lui vers
le centre
une structure hospitalière proche. Parce que rien que le personnel soignant saura quoi faire dès que vous êtes avec la personne. Il ne faut pas les soigner à la maison. Il faut les ramener à l'hôpital. Puisque déjà à la maison, s'il a commencé la diarrhée, les diarrhées qu'il fait là laissent les bactéries et qu'une autre personne peut par advertance passer par là et se faire contaminer. Et ça ne sera pas intéressant. Donc, quand vous ramenez la personne, ils expliquent aussi à l'hôpital que il a fait de caca à la maison et l'hôpital va envoyer des experts pour venir décontaminer et sécuriser la maison.
Il dit pourquoi il y a une faible vulgarisation autour du choléra ou sensibilisation.
Le choléra, c'est une épidémie qui est déclarée à peine. Donc il y a deux mois que le ministre de la Santé a déclaré le choléra comme épidémie en RDC. Et lorsque une épidémie, lorsque le ministre déclare une épidémie, il donne le pouvoir à l'Institut national de santé publique d'activer les centres des opérations d'urgence un mot de réponse par rapport à, au choléra. Et au niveau du centre des opérations d'urgence, nous mettons la structure appropriée à pouvoir gérer le choléra et que nous allons appuyer. C'est ce que nous appelons le système de gestion d'incidents. Mmh. Et pour la RDC, nous avons un système de gestion d'incidents pour le choléra et ce système-là qui s'en charge du choléra. Et cette émission où je suis invité se passe dans le cadre de la sensibilisation à l'épidémie du choléra. Et c'est la Stella Ramazani qui est la responsable de la communication au système de gestion des incidents qui m'a contacté pour me demander de couvrir cette émission. Donc, dire qu'il y a une faible sensibilisation, je pense pas beaucoup parce que déjà l'émission c'est dans le cadre de sensibilisation.
Bien, Tagamile de Bounia parle de la prophylaxie sanitaire, prophylaxie médicale. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Oui. Mon cher Tagani, je te salue.
Tagamile, oui.
Tagamile à partir de Bounia, c'est une ville que je fréquente régulièrement. Le choléra, c'est la maladie des mains sales. On vous dit c'est la maladie des mains sales. Ça veut dire que si nous voulons l'éviter, nous devons faire quoi? L'inverse, c'est les mains sales.
Ouais, il faut avoir les mains propres.
Nous devons avoir les mains propres, c'est l'hygiène. Donc, nous devons avoir d'abord un. Tout ce que passe par les mains, quand on parle de mains sales, nous n'allons pas seulement voir nos mains. Donc, l'eau pour boire, nous prenons les pas avec les mains. Pour manger les repas, nous prenons avec les mains. Donc, nous pouvons attraper le choléra par nos repas que nous mangeons, par l'eau que nous buvons. Nous avons la facilité d'attraper le choléra et par nos gestes quotidiens. Vous saluez quelqu'un et qui, dans ses mains, il avait le vibrio du choléra. Vous allez manger un repas en cours de route sans vous laver
sans
les
vous
mains.
Se laver
ça
les mains.
Veut dire que vous allez vous contaminer. Votre repas était propre, mais c'est le geste qui a été posé qui vous fait contaminer au choléra.
Vous étiez aux toilettes, vous sortez de là sans laver les mains.
Sans laver les mains.
Et vous allez manger un pain.
Ah, effectivement. Vous comprenez. Et aussi, les gestes que nous déconseillons le plus, c'est cette façon-là d'aller déféquer à l'air libre. Parce que quand vous déféquez à l'air libre, les mouches qui vont aller se graviter, se poser sur
les
matières fécales et venir les déposer partout
sur
dans nos maisons.
Sur les aliments, sur les beignets, tout
voilà.
ça, etc.
Et là, c'est aussi... alors, le vaccin existe. Je pense que c'est lui qui a posé la question.
Oui, il a parlé aussi du vaccin.
Voilà,
oui.
Le vaccin contre le choléra existe. Et nous sommes en phase de préparation. Nous pensons même à Kinshasa, ici, nous allons vacciner. Mais Bounia n'est pas sur les zones prioritaires. Disons, c'est Ituri. Bounia, c'est Ituri.
Oui.
N'est pas parmi les provinces concernées. Mais ils sont dans les provinces à préparation parce que ils partagent des frontières avec le sud et le nord Kivu, voire le Maniema, qui sont touchés.
Bien, avant de répondre aux autres questions, on va accueillir Elvis de Kinshasa, Ismaël de Lubumbashi et Platini de Mbandaka. Nous parlons du choléra. Comment lutter contre le choléra, briser la persistance de cette maladie dans certaines provinces du pays. Appelez-nous au 099 706 99 41 pour participer.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Bien, nous parlons du choléra aujourd'hui, comment combattre cette maladie qui persiste dans 6 provinces du pays depuis le début de l'année. Elvis, vous êtes à Kinshasa, soyez bref dans vos interventions. Bonjour, et quelle est votre question par rapport au choléra?
Bonjour, j'ai dit bonjour aussi à docteur. J'avais d'abord deux questions. La première,
oui,
je voulais savoir d'abord la différence. entre la choléra et la diarrhée normale. Parce qu'il a expliqué, selon les explications, il a aussi dit ce que nous faisons quand nous avons la diarrhée, on prend les sérum moral associés avec du jus et nous prenons. Mais avec la choléra, différence entre la diarrhée que nous avons avec la choléra.
Voilà, il y a un autre intervenant qui est en train de parler. On peut fermer son micro comme ça. On va entendre la question d'Elvis. Oui, allez-y.
Et je voulais d'abord savoir la différence entre la choléra et la diarrhée normale.
D'accord, différence
entre... Dans ses explications, il a dit qu'il allait prendre le sérum oral comme nous le faisons avec la diarrhée normale. Et la deuxième question, je voulais savoir sur la prise en charge. Parce que lorsqu'il est déclaré comme une épidémie, c'est comme c'est fait avec la tuberculose. Je pense que la prise en charge est gratuite par les hôpitaux. Est-ce que c'est aussi la choléra est ainsi? Voilà ce que je voulais savoir.
Merci beaucoup. La différence entre le choléra et la diarrhée normale. Ismaël Mumpoy de Lumbashi, bonjour et quelle est votre question?
Toujours dit Daniel Kachama.
On vous écoute Ismaël.
Merci beaucoup. Je pense que l'invité a spécifié chose, mais j'avais voulu savoir quels sont les signes cliniques qui font différence entre le choléra et le paludisme. Parce que dans la plupart des cas, tout commence avec les maux de tête, les douleurs de veines jugulaires, mais peu après, c'est la diarrhée qui commence. Mais comment on peut faire la distinction des signes cliniques de cette maladie? Bon, du temps, il y a une particularité aujourd'hui. Parce que du temps, les choléras pouvaient se manifester que pendant la saison de pluie. Mais maintenant, c'est une nette différence où pendant la saison sèche, ici à Lubumbashi, vous trouverez beaucoup de cas de choléra. Mais qu'est-ce qui fait cette différence? Nous savons que pendant la saison de pluie, il y a quand même beaucoup de saletés, surtout dans les grandes villes où nous vivons. Mais maintenant, c'est tellement différent. En guise du traitement, bon, il a dit seulement les systèmes de réhydratation, bon, tels que le sérum oral. Mais maintenant aussi le sérum oral que nous avons sur le plan pharmaceutique ou dépôt pharmaceutique, ça, ce n'est pas efficace comme au début, comme il dit, un litre. Vous mettez un litre, ça ne goûte rien, il n'y a pas un peu la saveur là. Mais pourquoi pas aussi insérer la tétracycline parce que par sa composition chimique, montre un peu son efficacité, hein, ça peut aider ou ça aide plus selon sa composition. Quel peut être un traitement spécifique à part les systèmes de réhydratation?
Merci.
Tel que si un sachet d'un sérum oral dans un litre d'eau ne répond pas correctement. Est-ce qu'on peut mettre des sachets dans un litre d'eau?
D'accord.
En plus, ici à Lubumbashi, on vaccinait. Mais les gens n'acceptaient pas cette vaccination-là. Mais quel conseil l'invité peut prodiguer à ceux qui doutent le vaccin comme l'habitude, parce qu'on avait même des gens doutaient même le vaccin contre le coronavirus.
Merci.
Quelles seront par exemple les lignes de conduite?
D'accord.
Ou les conseils que l'invité peut Merci. Donner à la population?
Merci beaucoup. Merci.
Pourtant, la sensibilisation était presque au cosmos. Mais
D'accord.
maintenant, bon, on a plus baissé les rythmes.
D'accord.
Ou la coloration d'eau, bon, peut être aussi une nécessité principale pour en guise de prévention de cette maladie.
Merci. Merci beaucoup, Ismaël de Lumbashi. Platini de Mbandaka, bonjour. Et quelle est votre question sur le choléra?
Voilà. Merci. Bonjour, Jody. Merci. Je salue l'invité. Je salue tous les auditeurs. Je sais qu'aujourd'hui, je ne serai pas trop kilométrique comme mon prédécesseur de Lubumbashi, mais je serai trop courte. Je sais que j'ai suivi bien l'invité, comme il a dit, mais aujourd'hui, comme la République du Congo, le ministère de la Santé, il y a des maladies qu'on a déclarées publiquement, lèpre, tuberculose, et ensuite la prise en charge autour de ça. Mais moi, je voudrais justement revenir à l'invité, parce que l'invité a dit... Parce que maintenant, je prends les cas de la ville de Mbandaka où il n'y a pas la sensibilisation.
Quelle est votre
les
question
gens
alors?
Ne savent même pas que... Bon, la question tout droit, je me pose à l'invité. Pourquoi la sensibilisation s'est faite au moment où il y a la maladie? Mais comme aujourd'hui à Mbandaka, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas la sensibilisation. Pourquoi? Et de deux, quels sont les symptômes, le signe qu'on peut trouver qu'on dit que cette personne a une maladie? Quels sont les symptômes et les signes? Mais je rêvais toujours à lui sur la sensibilisation. Pourquoi ça ne se fait pas? on attend toujours le jour où on va déclarer à Mbandaka ou au Congo, il y a la maladie de ce petit quoi. Là, on fait la civilisation ou comment? Je voudrais avoir la pression autour de ça.
Bien, merci beaucoup. Maître Gaston de Kinshasa avait appelé pour conseiller les auditeurs de bouillir de l'eau, de bouillir l'eau avant la consommation. Charles de Lumbashi dit, est-ce qu'il faut parler d'une pandémie ou de l'épidémie de la choléra? Docteur Richard Kitenge, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Charles, nous sommes dans une épidémie.
Et c'est quoi la différence entre les deux concepts?
Une épidémie, c'est lorsque nous sommes dans le front. Une épidémie, c'est lorsque nous sommes dans les frontières nationales. Mm. Et une pandémie, c'est lorsque ça va au-delà,
ça dépasse
nos limites nationales. On parle des pandémies. C'est ce qu'on avait avec coronavirus. C'était une pandémie, c'était pas une épidémie.
Ok. Et il dit pourquoi c'est seulement dans certains quartiers de Lubumbashi qu'on déclare toujours le choléra. Il a parlé de la commune de la Kenya, les quartiers Congo, tout ça.
Je suis vraiment intéressé par les préoccupations de l'auditeur. Je trouve qu'il est... c'est un appui et je vais même le recommander à ce qu'il fasse partie de l'équipe de sensibilisation par rapport au choléra. Nous allons joindre Charles dans l'enquête communautaire pour que nous puissions identifier pourquoi ces quartiers persistent au virus. Mais il suffit qu'il examine les habitudes des habitants de ce quartier-là. Il comprendra que l'hygiène
pose problème. Bien, il dit, quand on arrive à bouillir de l'eau avant de la prendre, cette eau perd le goût, ça perd. Est-ce que c'est vrai?
C'est ce que nous demandons aux collègues de faire la différence entre les bénéfices risques. Est-ce qu'il faut risquer à prendre l'eau contaminée parce que le goût, lorsque vous bouillissez l'eau, elle se perd, ou il faut boire l'eau bouillie pour se préserver du choléra? Ça, c'est une question que moi, je vais retourner à mon collègue qui l'a posée.
Qu'il fasse le choix.
Voilà. Donc, il n'a pas de choix. Je ne vais pas lui demander à faire le choix.
Non, il n'y a pas de choix.
Dès qu'il n'a pas de purifiant que nous trouvons dans le milieu pharmaceutique, il n'a qu'à bouillir l'eau et le prendre. Et même en bouillissant cette eau-là, il y a des critères. Vous allez bouillir l'eau et le mettre dans une casserole qui est contaminée, l'eau ne va pas te servir. Oui. C'est-à-dire qu'on doit respecter ce qu'on nous appelons l'asepsie dans le processus jusqu'à ce que vous allez devoir prendre boire l'eau. Mmh. Parce que l'eau bouillie peut être bouillie complètement, mais vous avez exposé le verre que vous allez utiliser pour vous servir cette eau-là et que le vibrio se trouvait dans ce verre. Vous allez criminer l'eau alors que c'est juste le vibrio qui, à travers les mouches, s'est introduit dans le verre que vous avez utilisé.
Voilà. Elvis de Kinshasa veut savoir, est-ce qu'il y a une différence entre le choléra et la diarrhée normale?
Mais effectivement, il y a une différence. Donc, j'ai dit que le choléra a des spécificités. Et je crois que si je réponds, je risque de répondre aussi à la question de notre auditeur.
C'est mieux de répondre directement qu'il y a celui qui veut connaître les symptômes.
Les symptômes. Le choléra, il y a Elvis, et puis il y a le collègue qui a demandé qu'on lui fasse la différence entre le choléra et les palus. Nous disons que le choléra, c'est une diarrhée apurétique. Il n'y a pas de fièvre lors du choléra.
Ok.
Et c'est une diarrhée qui a un aspect particulier, comme je l'ai dit tout au départ. Il n'y a pas de matière fécale dans l'eau qui coule de l'organisme. Vous n'allez pas trouver la matière fécale.
Il n'y a que de l'eau.
Il n'y a que de l'eau.
Vous perdez trouver, de l'eau.
Oui. Donc, pendant le choléra, il n'y a que de l'eau que vous allez voir sortir des matières fécales. Il n'y a pas, c'est pas fusionné aux matières fécales. Donc, si vous faites une diarrhée qui a les matières fécales, qui a de sève gléreuse, qui a ceci, ça n'a rien à voir avec le choléra. Ça peut être une autre maladie, shigellose ou tout le reste. Donc, il faut voir les personnels, les professionnels de santé pour vous le faire. Donc, si le collègue peut revenir, je vais revenir par rapport à la différence que le collègue a demandé entre le choléra et le palu. Ces éléments de diagnostic que je donne, le vomissement âgée, la diarrhée aqueuse, la pyrrhée, l'asthénie physique intense qui suit le
l'asthénie,
diarrhée,
c'est quoi?
La fatigue.
La fatigue généralisée.
Parce que quand vous perdez de l'eau, vous perdez même la force.
Oui.
Donc on va vous trouver étalé par terre, vous n'avez même pas la force de vous lever.
Mm.
Et ça, c'est le choléra. Mais...
Il n'y a pas de fièvre.
Il n'y a pas de fièvre. Vous n'aurez pas de maux de tête, tout ça. Mais ça n'exclut pas qu'une personne qui était déjà en train de faire sa fièvre fasse le choléra. Ce n'est pas exclu.
Mm. Bien, Ismaël de Lubumbashi dit que souvent, à Lubumbashi, par exemple, le choléra se manifestait pendant la saison des pluies, parce qu'il y avait beaucoup de saleté, etc. Mais comment expliquer que même pendant la saison sèche, il y a toujours, on enregistre des cas de choléra?
Je vais demander à Ismaël de ne pas incriminer la saison, mais nous devons incriminer nos habitudes. Donc ici, que ce soit pendant la saison de pluie ou pendant la saison sèche, dès lors que nous sommes en train de déféquer à l'air libre, dès lors que nous ne voulons pas traiter de l'eau, dès lors que nous ne voulons pas respecter l'hygiène, ça veut dire que le choléra sera toujours à côté de nous. Et nous allons vivre de façon permanente avec, et ça sera pas intéressant, parce que ça va avoir des répercussions au niveau professionnel, au niveau scolaire, et tout, tout ça.
Et est-ce qu'il y a, il est établi qu'il y a des gens qui font les selles à l'air libre?
Et bien sûr. Bien sûr, il y a la défécation à l'air libre. Le collègue parle de Lubumbashi. Moi, je suis sorti de Kasapa. Et il suffit, je sais pas si ça a changé après.
Surtout dans les sites universitaires.
Ah, mais oui.
Les toilettes sont trop sales et les étudiants vont se soulager.
En tout cas, que ça soit
dans la nature.
Que ça soit ça c'est à notre temps. Je veux pas que les étudiants s'en prennent à moi. À notre temps.
Oui.
On y avait ce que nous on appelait Homme 40 quand on était à l'université de Kinshasa.
Mm.
Et il y a au campus de Lubumbashi, il y a le Homme 11.
Homme 40, c'est ici à l'université de Kinshasa.
Mais oui.
Là-bas, c'est Homme 11.
Homme 11.
Ça veut dire qu'on
va à l'air libre.
À l'air libre.
Oui. Et cette défécation-là est à déconseiller. Mm. Donc, si jusqu'aujourd'hui, ces anciennes habitudes que nous, on avait trouvées continues, il faut que qu'on les déconseille de continuer à les faire.
Oui. Bien, il y a également, Ismaël a dit que vous avez dit qu'on peut utiliser le sérum oral pour un cas, quelqu'un qui a fait le choléra, un sérum oral pour un litre d'eau. Mais d'après lui, ce n'est plus efficace. Peut-être, pourquoi ne pas insérer la tétracycline ou quelque chose comme ça?
Mais le collègue, il mesure l'efficacité de ce sérum en quoi? C'est par la saveur qu'il veut mesurer l'efficacité, non? Nous, lorsque nous donnons le sérum oral, il y a des électrolytes qui sont perdus par la diarrhée du choléra, qui se retrouvent dans ce sérum que nous voulons que la personne récupère en prenant le sérum, pour ne pas totalement être déshydraté.
Mm.
Et je ne veux pas conseiller à Ismaël d'aller prendre quoi que ce soit, parce qu'il n'est pas personnel soignant, il n'est pas personnel médical. Même s'il est personnel médical, il va le faire lorsqu'il est dans l'exercice de ses fonctions devant ses patients. Donc ici, je ne veux pas donner une prise en charge du choléra au risque de créer ce que nous appelons l'automédication auprès de la population.
De la population. Oui. Dès qu'on constate que la diarrhée continue,
il doit aller directement à l'hôpital.
Oui.
Et peut-être répondre aussi à la question de notre auditeur, le soin. Comme on a parlé, les soins pour le choléra sont gratuits. On ne paye pas, c'est le gouvernement et ce sont les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le gouvernement qui mettent les intrants dans les structures hospitalières pour soigner gratuitement tous ceux qui sont atteints du choléra.
Dans toutes les structures, que ce soit officielles, publiques ou privées?
Non, je ne dirais pas dans toutes les structures, mais je dis que le soin pour le choléra sont gratuits. À Lubumbashi, nous avons les centres de traitement qui sont érigés.
Mmh.
Et donc, nous demandons aux gens qui sont atteints de se rendre le plus rapidement possible dans les structures des prises en charge qui soient attitrées, certifiées.
Mais à quel moment on peut soupçonner le choléra? Parce qu'une personne peut faire la diarrhée, peut-être, bon, intoxication alimentaire ou quelque chose, ça peut passer. Mais à quel moment on peut soupçonner le choléra?
de par l'aspect, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais les collègues de la communication, ils utilisent ce que nous appelons une définition communautaire de cas. Ça veut dire que vous êtes à la maison et tout d'un coup, un enfant qui était très bien portant et se met
à faire la diarrhée.
Et n'attendez pas. Vous voyez qu'il va faire la diarrhée, c'est une diarrhée aqueuse pour la première fois. En un clin d'œil, il refait une autre diarrhée.
C'est de l'eau.
De l'eau. Ouais. Donc, vous devez ne pas attendre que la troisième fois arrive.
Immédiatement,
vous devez l'amener. Et si jamais cette diarrhée s'accompagne de vomissements, ça devient une autre grosse urgence que vous devez tout faire pour arriver avec l'enfant au centre de prise en charge. Mais même si l'enfant est en train de vomir, comme on l'a dit, donnez-lui de l'eau. L'eau plate, l'eau que nous avons dans les bouteilles là, oui, ayez le réflexe d'acheter cette eau-là et commencer à imposer à l'enfant de boire en attendant que vous arriviez à l'hôpital.
Papi Mboyo, vous êtes en Mbandaka et Pierrot à Lubumbashi. Papi Mboyo, bonjour et quelle est votre question par rapport au choléra?
Bonjour, Jody Daniel Sachama. Bonjour à notre invité, surtout dans ce billet d'intervention que nous avons vraiment aimé. Et en fait, ma préoccupation était de savoir, d'abord, pour une petite histoire, si nous sommes en Mbandaka, nous sommes souvent attaqués par des choléras comme ça, maladies comme ça, Ebola et autres. Alors, comme vient de dire notre invité, et les symptômes doivent être la diarrhée et autres, la maladie des médecins et autres. Alors, ici, chez nous, il y a beaucoup de gens qui ont des pratiques de prendre peut-être le médicament qui traite le dos, on vous donne les médicaments, aller boire, tout ça, on vous dit, ça va vous créer la diarrhée. Et vous pouvez voir comme ça, deux journées, deux nuits, vous faites la diarrhée. Tout ça, ce qu'on peut considérer tout ça comme la choléra, ça c'est la première des préoccupations. La seconde, comme l'a dit notre invité, si je lui ai bien suivi dans son exposé de motifs, il dit que c'est une maladie de mains sales. Ici, lorsqu'il y avait Ebola ici qui ravageait la ville, c'était toujours la maladie des mains sales. Et moi, la question est celle de savoir, notre invité, qui nous explique vraiment distinctement, est-ce que cette maladie est dite de mains sales seulement aux gens de niveau moyen, niveau bas, qui n'ont pas assez de moyens économiquement? Parce que c'est un constat amer, M. Jody, que dans la ville, vous ne voyez pas un grand patron qui a beaucoup d'argent ou des...
Souffrir du choléra, c'est toujours les gens qui n'ont pas assez de moyens qui sont touchés.
Voilà. Est-ce que, pourquoi cette histoire, cette pratique,
cette maladie,
pas piquée aux gens qui n'ont pas assez de moyens et que les gens qui ont des moyens, des fois, ils sont passés outre.
Ils font pas le choléra.
Moi, je voulais savoir à notre invité.
Merci beaucoup. Merci, Papi Mboyo. Pierrot de Lubumbashi, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le choléra? Quoi est votre préoccupation?
Bonjour Papi, bonjour à l'invité, c'est Chris Pierron Pagnan. Je suis tout d'abord expert en santé. Je suis à Lubumbashi comme un cadre de la société civile santé. Nous avons travaillé avec quelques ONG pour rabaisser le taux de létalité dédié au choléra. Mais il y a deux choses que nous avons retenues que l'invité essaie de ne pas bien parler. Vous savez ce qu'il dit concernant le sérum moral autre chose. Vous savez, quand il y a le choléra, la personne prend boîte de perfusion. Ce n'est pas des sérums moral qui vont faire quelque chose s'il est réellement souffrant. Parce que le taux de la diarrhée qu'il fait, ça ne va pas permettre à ce que seul le sérum moral puisse suffire. Mais je veux vous dire que ici à Lubumbashi, nous avons travaillé, nous avons trouvé d'abord que l'État n'a pas suffisamment de moyens pour mettre fin à la recrudescence des cas de choléra. Et nous avons trouvé qu'il y avait un organisme qui était aussi concerné pour mettre fin. C'était le médecin sans frontières. Mais le médecin sans frontières à lui seul pouvait chercher les gens pour commencer à mettre du chlore dans l'eau chercher les endroits où placer les malades, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous valer la force. L'État congolais n'a pas assez de structures pour régorger tous les cas que nous, qui seront détectés. C'est là qu'ils nous ont contacté les privés, et les privés, là, demandent assez de moyens. C'est là que nous avons trouvé que le médecin sans frontières a ciblé les gens, mais lui, il s'est fixé surtout dans la prévention. Mais en prévention, quand nous réglons avec elle, nous avons trouvé qu'il y a assez de tuyaux de la régie des eaux qui sont libres. Et quand il y a des eaux de pluie, c'est la même qualité de l'eau qui va être salie par les eaux usées. C'est là qui fait qu'il y a aussi la salité d'autres quartiers. Vous verrez que ce sont des quartiers trop sales où il y a assez de densité, où vous verrez ces cas de recrudescence. Je vais par exemple à Calémie, comme il dit que non, la personne fait la diarrhée, fait ceci, cela, donner le sérum oral. Bien sûr, il l'a déjà dit, mais à Calémie, tout le monde connaît ça. Connaît qu'en cas de choléra, il ne faut pas boire cette eau, parce qu'à Calémie, tout autour du lac Tanganyika, vous allez trouver les gens là-bas. Le choléra, c'est une pandémie, ce n'est plus une épidémie là-bas. Les gens ont ça dans leur tête.
D'accord, merci beaucoup. Merci
beaucoup. Ma seule question, comme il fait cette propagande, mais pourquoi sur terrain, l'État congolais ne cherche pas les gens capables de le faire, de faire ça bouche à bouche, parce qu'il fallait d'abord associer la communauté, c'est associer les chefs de quartier, les chefs de riz, le préfet des études, le pasteur. Et aujourd'hui, pour chuter, on trouve que le ministère a dans son programme planifié la lutte contre la variole. Or, nous savons aussi que la variole n'est pas encore déclarée une épidémie. Il y a la rougeole qui tue les gens.
Merci.
Il faut aller avec des choses.
D'accord.
On laisse ce qui est, comme récompense, on prend de ce qui est, on peut dire, inutile. C'est
merci, Pierrot. D'accord, merci Pierrot de Lumbashi, qui est aussi un personnel médical. Alphonse Mbata nous a écrit sur Internet, le choléra est une maladie des mains sales. L'hygiène alimentaire des boissons, de l'environnement et des mains permet de limiter la chaîne de contamination. Cette maladie sévit dans les provinces où la population consomme surtout les eaux de lac. Notre gouvernement a ses devoirs d'aménager les sources d'eau et de sensibiliser la population sur l'hygiène. Bien, docteur Richard Kitenge, vous avez suivi toutes les préoccupations. Papi Mboyo de Mbandaka qui dit la prise de certains médicaments induit des effets secondaires. Et parmi les effets secondaires, il y a aussi les cas des diarrhées. Et puis il dit pourquoi le choléra touche, apparemment ça touche ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Parce que ceux qui ont des moyens ne font pas souvent le choléra. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Papi Mboyo?
Oui, Papi Mboyo intervient d'une province, d'une ville que je connais bien.
Mbandaka.
Je suis passé plus d'une fois à Mbandaka, soigner le choléra, à Wangata, Bolenge et partout. Et je dis à Papi Mboyo que la diarrhée que vous allez faire en prenant vos racines d'arbres, je sais que l'entité, c'est ça la force de l'équatorienne. Donc, je pense que cette diarrhée n'a rien à voir avec la diarrhée du choléra.
Du choléra.
Je suis revenu plusieurs fois sur la forme de cette diarrhée. Ne cherchez pas l'aspect eau des riz, vous n'allez pas trouver, mais mettez en tête que le choléra donne une diarrhée où il n'y a pas la matière fécale dedans. Ça fait couler de l'eau.
Et vous perdez beaucoup d'eau et c'est ça qui peut conduire à la mort.
Et oui. Et puis, il y a parfois, ça peut s'associer à des vomissements. Donc ici, nous restons sur l'aspect diarrhée où je dis, ne cherchez pas que la personne commence à vomir. Donc dès que vous avez le diarrhée, qu'il soit des diarrhées, comme je l'ai dit, aqueuses, n'attendez pas. Ramenez les malades à l'hôpital.
Est-ce que c'est vrai que ça touche beaucoup plus les gens qui n'ont pas assez de moyens?
Ça, c'est son affirmation. Mais retenez que les mets sales ne choisissent pas les races sociales.
Ça touche
dès
tout le
que
monde.
Vous êtes...
Vous n'avez pas l'hygiène.
L'hygiène est déficitaire chez vous. Le choléra va frapper à votre porte.
D'accord. Pierrot de Lumbashi dit que les sérums ne suffit pas, il n'y a pas assez de structures de prise en charge, tout ça, il y a des tuyaux de la régie des eaux troués, bon, il y a toujours contamination, recontamination, c'est pour cela, d'après lui, la maladie persiste.
Je vais dire à Pierrot que nous avons deux contextes. Nous avons la réponse aux épidémies et nous avons l'éradication. Le choléra, c'est une entité, la gestion est multisectorielle. Donc ici, ce n'est pas seulement la santé qui doit être au devant de la scène. La santé se met au devant de la scène parce que nous voulons gérer la létalité, les décès que le choléra génère. C'est pour éviter qu'il y ait de décès que nous mettons les centres de traitement. Mais pour éliminer le choléra, nous devons aller dans ce que nous parlons eau, hygiène et assainissement. Donc cet aspect d'eau, hygiène et assainissement ne va pas concerner seulement la santé. Il y a le ministère de l'Environnement qui doit être là, le ministère de l'Hydrocarbures, si je ne me trompe pas, de l'eau. Ceux qui ont l'eau dans sa gestion, ils doivent participer.
Ministère de l'Énergie.
De l'Énergie, la Défense, tout le monde doit être là. Intérieur doit être aussi là. Parce qu'on a besoin que les autorités soient réunies autour du ministère de la Santé qui gère la personne qui est touchée. Et le ministère de la Santé a donné le pouvoir à l'Institut National de Santé Publique qui, il y a un bras technique que nous appelons le Centre des Opérations d'Urgence et si on tous...
Donc la lutte est multisectorielle.
Oui. Tous ces partenaires techniques, tous ces ministères envoient leurs experts et donnent, prêtent main forte au CUSP. Le CUSP va devoir gérer efficacement la réponse du choléra. Mais je tiens...
Et pourquoi cette persistance? C'est parce qu'il y a toujours la... Il n'y a pas l'hygiène, une bonne hygiène.
Effectivement, il y a toute cette dimension multisectorielle des faits qui rentre. Parce que si l'eau que nous devons prendre n'est pas propre, même si vous avez l'hygiène, ça veut dire que vous serez exposé. Si notre environnement est insalubre, nous sommes toujours exposés, quelle que soit l'hygiène au niveau de la maison, parce que la mouche qui va entrer dans la maison profite juste d'une petite ouverture pour rentrer. Et si l'environnement externe n'est pas approprié, ça veut dire que la maladie va frapper à nos portes.
Tout à fait.
Donc ici, j'ai dit à Pierrot que la dimension multisectorielle de la lutte doit être mise sur la table et doit être primée. Et tous ces partenaires techniques doivent venir au centre des opérations d'urgence pour apporter sa pierre dans cette lutte. Parce que nous, il y a un programme national d'élimination du choléra en RDC qui est en place. Donc le ministère a déjà mis en place tout un programme pour éliminer le choléra. Aujourd'hui, si le centre des opérations d'urgence a récupéré l'aspect choléra, ce n'est pas pour remplacer le programme, mais c'est pour apporter une main forte au programme à pouvoir remettre le seuil que nous avons atteint aujourd'hui au niveau ordinaire où le programme est censé gérer pour atteindre l'élimination.
Bien, merci beaucoup docteur Richard Kitenge, chef des sections des opérations pour le choléra, chef des sections des opérations au centre des opérations d'urgence des santé publique et chef des opérations pour le choléra. Voilà, je pense que je vous ai bien présenté. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il ne reste qu'à vous dire grand merci, bonne journée et à la prochaine.
Merci beaucoup. C'est juste dire que je suis le chef de la section des opérations pour les centres des opérations d'urgence.
D'accord. Merci beaucoup. À la prochaine.